Édouard Fourcade, dans la spécificité de votre société, beaucoup d'investissements effectivement en R&D, et je regardais aussi, vous ne faites pas d'acquisition, alors que bon, les banquiers d'affaires dans ces périodes-là devraient vous solliciter, pas d'acquisition dans la période. On se demande comment c'est possible de faire que de la croissance organique.
Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas. Oui, on a
C'est vraiment
fait.
dommage que votre société ne soit pas cotée, parce que nous, c'est le genre de boîte qu'on adore. Hein.
Ah, je sais bien, ça c'est dommage pour beaucoup, sauf pour nous. Donc, la croissance, elle est réellement organique. En 2011, on a réalisé à peu près 11% de croissance au niveau mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une croissance qui est très bien distribuée à travers l'ensemble des zones géographiques de la planète. En France, on a fait 10% de croissance. Dans certains pays d'Asie, c'était un petit peu moins. Mais globalement, c'est assez bien équilibré. C'est autour de 10% partout. Et on a la même prévision l'année prochaine. La raison pour laququelle on fait pas ou peu d'acquisitions, en réalité, on en fait quelques-unes, mais microscopiques à chaque fois, dans le but d'aller servir un sujet de niche qui vient compléter les offres que l'on a, c'est parce que le cœur de notre métier a été, nous l'avons développé depuis 36 ans. C'est un métier analytique qui vise à développer, donc, comme je disais tout à l'heure, des modèles mathématiques extrêmement complexes. Je pense qu'on a une des densités de PhD en mathématiques au mètre carré qui ferait rêver beaucoup. Donc c'est en construisant nos modèles mathématiques et les logiciels qui permettent de l'exploiter que l'on apporte cette valeur aux entreprises. Et donc, il nous arrive parfois d'avoir besoin de petits compléments technologiques pour faire face à une problématique extrêmement fine ou extrêmement particulière. Mais globalement, la croissance, elle vient vraiment de notre demande. On a une particularité aussi qui est assez plaisante par les temps qui courent, je dois l'avouer. C'est le fait de réinvestir, quelle que soit l'ambiance économique, de réinvestir entre 23 et 25% de notre chiffre d'affaires tous les ans en recherche et développement. Ce qui nous permet donc d'être extrêmement réactifs aux fluctuations des demandes, ce qui nous permet de faire face à des contraintes réglementaires qui peuvent arriver dans le secteur financier ou dans le secteur de médical ou autre. Donc ce qui nous permet d'apporter des réponses aux clients de manière extrêmement rapide, de manière extrêmement pertinente, et justement pour leur permettre de faire face aux exigences constantes qu'ils ont, qui se présentent à eux. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on n'a pas de croissance externe et c'est pas dans les plans. Alors j'en suis navré pour les financiers, pour les grands argentiers de ce monde, effectivement, qui aimeraient bien nous aider, mais on a également comme dernière particularité d'être entièrement autofinancé et de n'avoir aucune dette.
Voilà, donc dans la période, peut-être, effectivement, un facteur intéressant. Marc Diwan, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui se passe dans la zone euro, on peut dire que c'est un changement de monde, qu'il y a un changement de ce qu'on a vu. Vous parliez de ces entreprises très internationales, on voit ce qui se passe en Asie, on voit ce qui se passe au Brésil. Il y a véritablement un changement de monde et une zone euro, mais comme les États-Unis, qui doivent s'adapter à ce changement économique.
Alors au niveau de modèle, je ne sais pas, mais je voudrais en tout cas faire une distinction. Il y a les changements politiques, et c'est vrai que la situation européenne est principalement due aujourd'hui au fait que l'Europe, c'est 27 pays, et donc très difficile d'avoir une politique commune. Mais lorsqu'on prend aujourd'hui État par État, la France, l'Allemagne, nous n'avons pas plus d'endettement que les autres pays au niveau mondial, quelque part. Donc c'est ça qui fait quelque part l'originalité et la difficulté, quelque part, dans la situation dans laquelle on se trouve. Après, d'un point de vue économique, je pense que la globalisation, il faut plutôt voir cela comme une force plutôt que comme potentiellement aujourd'hui une faiblesse. Et je répète encore une fois de plus que la globalisation, lorsqu'on regarde la Chine, il y a 20 ans, c'était un pays sous-développé. Aujourd'hui, au niveau de la Chine, c'est la cinquième ou la sixième puissance économique mondiale. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui au niveau du développement, je parle de l'être humain au niveau de la Chine par cette globalisation, il est relativement important. Et c'est vrai qu'il y a toujours un retour de balancier. Nous avons énormément aidé quelque part la Chine, on l'a appelé l'usine du monde pendant pas mal de temps, en exportant aujourd'hui de la fabrication en Chine. Aujourd'hui, les Chinois, pour pouvoir relancer leur activité et connaître une croissance sur les 10 prochaines années, il y a le parti a lancé son cinq années, quelque part le plan pour les prochaines 5 ans. Et sur ce plan-là, ils veulent changer de stratégie plutôt que d'être l'usine du monde. ils veulent aujourd'hui innover. Ils veulent pouvoir aujourd'hui créer et ensuite exporter quelque part et concurrencer aujourd'hui les Européens, les Américains. Et le retour de balancier, c'est pour ça qu'on parle de réindustrialisation de l'Europe, parce que la Chine est plus compétitive pour nous. Et donc la réindustrialisation de l'Europe, je pense, est une bonne stratégie, parce que lorsque vous conservez quelque part vos usines, c'est la manière de pouvoir innover en retour, de pouvoir extraire aujourd'hui des expertises, des connaissances, et de pouvoir aujourd'hui réintroduire quelque part un niveau d'innovation et de connaître une ère de croissance. Et après, je rappelle, aux États-Unis, on parle d'un continent qu'on oublie souvent en Europe, mais on parle souvent de ce continent-là en Chine et notamment aux États-Unis, c'est l'Afrique. Et il y a d'ailleurs des fonds d'investissement américains qui commencent de plus en plus à sélectionner aujourd'hui un certain nombre de pays africains, parce que demain l'Afrique peut être potentiellement l'usine du monde qu'a été la Chine. Et c'est là où la globalisation, je trouve, a un bénéfice, parce qu'elle peut potentiellement aider quelque part le continent africain de sortir de la pauvreté et de pouvoir quelque part tirer aussi l'économie et la demande mondiale vers le haut. Et c'est un point très très important, parce que en Europe, pourtant la France a des atouts exceptionnels quelque part par rapport au continent africain, de par quelque part l'histoire que nous avons avec ce pays-là. Mais en revanche, au niveau des investissements, on n'est pas encore au stade de pouvoir considérer l'Afrique comme un continent potentiellement qui peut tirer la demande mondiale.
Donc on a oublié l'Afrique dans cette mondialisation.
Exactement.
On a parlé des BRICS.
Exactement.
Mais en revanche, c'est un gros continent très proche de nous.
C'est vrai que la démographie en Afrique est très favorable.
Bien entendu, bien entendu. On parle, en 2020, je crois, j'ai entendu le dernier chiffre, c'est 2,5 milliards d'individus en Afrique. C'est quand même une manne et une consommation relativement importante. Et c'est là où la Chine, quelque part, tire un petit peu son épingle du jeu, c'est la démographie et la consommation intérieure.
Et la Chine qui a bien vu les matières premières présentes en Afrique.
Investir énormément.
Merci à tous les trois d'avoir participé donc à ce débat économique, l'économie en VO, et merci à vous de nous avoir suivis.